On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Emmental, Prince, Gruyère.
Déguster avec saveur le Gruyère que vous avez dans la bouche.
Alors dans notre région, on a Bleu Châtel aussi.
Les véritables fromages suisses sont signés Switzerland.
Il y a une odeur qui est assez forte. Hein.
C'est un produit vivant. Hein. Il y a toute la flore qui se développe et tout. La vache, c'est la plus belle machine qu'on a. Tu donnes à manger devant, tu peux reprendre derrière. Il faut quand même la respecter. Hein. On mange tous les jours du fromage, en famille.
C'est infini, tout ce qu'on peut faire avec du gruyère.
Ça marche trois fondus.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster un plateau de radio autant qu'un plateau de fromage aujourd'hui. Gruyère, Etiva, Appenzeller, Tête de Moine, ils sont presque tous là sur le plateau dont on va déguster. Ces meules nous émeuvent, on va découvrir leurs traditions, leurs spécificités, leur rivalité aussi avec les pâtes françaises et on va tenter de résoudre des énigmes aussi cruciales que... Y a-t-il des trous dans le gruyère? On part à la découverte de l'autre pays du fromage avec les sons de cloche de notre reporter Stéphane Combe qui est allé, figurez-vous, faire un tour dans les alpages suisses à la rencontre du gruyère et de l'Etiva. Mais on a aussi des invités en direct. Tout d'abord un fromager affineur français tombé dans le chaudron suisse, c'est Aymeric Gonzalez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de...
La crèmerie de la cour.
Absolument, une boutique du 8e arrondissement que je fréquente personnellement, une très jolie petite crèmerie. Assez petite mais irréprochable sur sa sélection de fromages. Vous êtes vraiment un fromager affineur pétri de conviction et vous allez nous raconter pourquoi la Suisse possède une passionnante identité fromagère.
Alors la Suisse c'est un vrai terroir, il y a une vraie signature dans l'ensemble des fromages suisses. On retrouve une vraie rondeur, une franchise, des arômes noisetés,
du lait cru. On va voir ça avec vous tout à l'heure, Aymeric, on va décliner quelques-unes de ses spécialités. Jennifer et Arnaud Favre, bonjour.
Bonjour.
Vous nous venez en direct d'un petit village qui s'appelle
Ride.
Absolument, c'est dans la région du Valais, en Suisse. Valais connu aussi pour sa raclette.
Tout à fait.
Évidemment, mais vous êtes là pour une fondue puisque vous avez fondé le, fondé le festival de fondue. Et c'est le festival des compagnons du Caclon. Vous venez de publier d'ailleurs un livre qui fait beaucoup parler en Suisse, mais également en France. Haute fondue, l'art de la fondue en 52 recettes délicieuses aux éditions helvétiques avec les photos d'ailleurs très alléchantes d'un photographe français, je crois, Dorian Rollin.
Tout à fait. Voilà. On s'est éclaté avec lui une semaine pour faire un shooting photo.
C'est ça. Et vous relevez un sacré défi ce matin, celui de faire chauffer le Caclon et de nous préparer en direct une fondue de votre composition, Jennifer.
Tout à fait. On va faire une merveilleuse, succulente fondue gingembre et citron.
Ah, ça peut faire peur comme ça, gingembre, citron. Mais qu'est-ce que c'est que ce sketch? Bah, vous allez voir. Gingembre, citron, ça peut marcher avec la fondue suisse et il paraît que c'est délicieux. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, Elvira Masson et Antoine Gerbel. Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Mais très bien.
Elle est en forme, Elvira, avec elle, on entend parler de fondue.
De Suisse et de fondue, je suis ravie. J'aime la Suisse, j'aime le lac Léman et j'aime la fondue.
C'est ça. Mais vous ajoutez quelque chose à cette fondue aujourd'hui?
Je vous parle de l'autre plat national suisse.
Ah, bon, on dit rien. On dit
on
rien.
Dit rien
non. Nos amis suisses savent évidemment et moi je sais, mais l'autre spécialité suisse, on verra de quoi il s'agit. Antoine?
Eh bien, moi je fais des infidélités au vin suisse que j'adore pourtant, hein, mais on va parler de la Savoie et mea culpa, je vais réhabiliter la Jacquère, ce petit cépage qui monte, qui monte, qui monte.
Absolument. Vous avez sûrement à la maison des remarques, des recettes ou des questions sur les fromages suisses, vous pouvez interagir avec nous depuis l'appli de France Inter ou en nous envoyant un mail on va déguster à radiofrance.com. Nos coups de cœur, les recettes de nos invités, le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de plonger nos fourchettes dans le caclon suisse, je vous propose d'abord de mettre la main dans le... ballotin! Un ballotin de bonbons de chocolat. Alors, je l'ai à mes côtés, blanc et cru, emballage tradi, rassurant, on sent que ce n'est pas tout à fait la dernière création parisienne d'un artisan hipster. Et pour cause, ce sont les chocolats d'une maison qui fête, figurez-vous, ses 125 ans. Elvira, vous connaissez
Sognon, pas ça? Sognon Bordeaux 1893. Non, je connaissais pas.
La maison c'est Sognon, fondée en 1893, c'est marqué en lettres dorées sur le ballotin. Fondée par Manuel Sognon et Manuel Sognon en a fait une confiserie dédiée au départ aux pâtes de fruits et aux berlingots. Et puis, Sognon s'est fait une renommée en 1930 avec cette petite chose emballée. Vous allez la goûter, Elvira. C'est dans le ballotin signé Saugnon.
Joli petit emballage
doré. Pourquoi
Elvira
goûte toujours le sucré ?
Parce que c'est évidemment notre bec sucré national.
Je me suis placée du bon côté du micro. Voilà.
Voilà.
Alors c'est quoi ? Une petite nougatine ?
Ah, déjà vous avez deviné que c'était une nougatine.
Petite,
c'est sphérique ?
Sphérique, une petite sphère de nougatine. Je croque ?
Bah bien sûr.
Ouf. On croque, ouais.
Elle s'est cassée dedans.
Dedans.
C'est du praliné à l'intérieur, une crème pralinée.
Bon, en même temps, c'est votre métier, vous décryptez bien. Praliné. Donc, effectivement, des noisettes, mais aussi de l'amande, ouais.
Délicieux.
Vous savez comment ça s'appelle ? Donc, ça a été créé en 1930. On va faire passer le ballotin, évidemment. 1930, ça s'appelle le galien. C'est à base, comme vous l'avez dit, de nougatine, une coque de nougatine sphérique, d'amande et de praliné fondant. Et c'est une gourmandise qui a été créée en hommage aux ruines du palais galien. Vous savez que c'est le seul vestige romain de Bordeaux. Voilà. Et c'est devenu véritablement, depuis 1930, un classique du patrimoine français des grands chocolats. Vous en pensez quoi?
C'est bon, hein?
Vous aimez ou pas, Antoine?
Délicieux.
C'est bon. Ça colle juste ce qu'il faut au molaire.
Oui, ça colle un peu au molaire. C'est bon.
Mais c'est bon, c'est surtout l'intérieur, le contraste avec le fondant.
C'est bon la nougatine, hein, ça se perd un peu.
C'est vrai,
c'est un peu désuet, mais c'est bon.
La recette est inchangée depuis les années 30, alors on va en passer aussi à nos amis autour du plateau, évidemment. Hein. Vous êtes suisse, mais on vous en veut pas, et on va vous faire goûter un peu de galien, bien sûr. Il y a des tablettes, il y a aussi des pâtes de fruits qui sont absolument délicieuses. Il y a une autre spécialité gentiment désuète qui s'appelle la guinette. Ça, ce sont des cerises fraîches au kirsch, trempées dans un fondant et recouvertes de chocolat noir. Ça, c'est quelque chose un peu grand-mère, etc., mais qui fonctionne encore aujourd'hui très bien et que j'aime beaucoup. Cette maison a été, figurez-vous, classée entreprise du patrimoine vivant par l'État. Saugnon, c'est 4 générations, une seule boutique à Bordeaux de 45 mètres carrés, une seule boutique cours Georges Clémenceau dans le centre-ville, 5 chocolatiers seulement et confiseurs pour fabriquer 20 tonnes de chocolat par an. C'est ce qui s'appelle de l'artisanat à l'état pur, et ce, depuis 125 ans. Joyeux anniversaire Saugnon. Les Bordelais ont de la chance de vous avoir, mais pour les autres, il paraît que les ballotins s'expédient. Voilà, l'émission est réalisée par Laurent Thomas et c'est Camille Blanès qui est aujourd'hui derrière la console aux côtés de Serge Villiers. Nadia Chougui et Laure Grand Besançon ont préparé l'émission Djoubaka pour la programmation musicale. Quand François Atlas revisite en chanson les poèmes de Baudelaire, ça donne notamment cette déclaration d'amour, promesse d'un visage, les fromages suisses dans un instant sur France Inter.
J'aime pas la beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semblent couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent tes pensées, qui ne sont pas du tout funèbres.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
Tes yeux qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique. Tes yeux languissamment me disent si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité, et tous les goûts que tu professes. Tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
Au bout de deux beaux seins bien lourds, de larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme le velours, bistré comme la peau d'un bonze. Une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure, souple et frisée qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Promesse d'un visage.
Les fromages suisses sur un plateau, celui dont on va déguster sur France Inter. Il paraît que quand on rencontre des amis suisses, il faut commencer par une tradition.
Oui, on fait toujours Schmolitz.
Schmolitz.
Ça veut dire qu'on rencontre quelqu'un, on passe du vouvoiement au tutoiement.
Oui.
Et on boit l'apéro avec en se croisant les bras.
Ah oui, donc vous êtes assez conviviaux.
Tout à fait.
C'est ça, et ben faisons Schmolitz. Alors comment on s'y prend?
Alors, je vous montre.
On fait ensemble, nous?
Alors Elvira doit se lever. C'est Jennifer, du coup, puisque notre ami Arnaud est levé. Ah oui, on croise les bras, c'est ça, et on boit, d'accord. C'est un peu risqué.
C'est très bien passé, non?
Ça rapproche les gens.
On se tutoie maintenant, c'est ça?
Et qu'est-ce que ça vous fait, chers amis suisses, de boire savoyard, ça va? Vous en remettez?
Pour l'instant, ça va, oui.
C'est ça.
Non, il est très bon.
Est-ce qu'il y a du vin dans votre fondue?
Oui, tout à fait. Alors nous, on fait au vin. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre autre chose. Hein. Vous pouvez très bien faire avec du cidre, avec de la bière, ou même avec de l'eau. La fondue Vacherin, pure Vacherin, qu'on trouve sur Fribourg, est faite avec de l'eau.
Là, on parle du Vacherin fribourgeois, et donc du coup, on délie un peu ce Vacherin avec de l'eau, c'est intéressant. Quand on parle de vin blanc, évidemment, on choisit de préférence du vin blanc suisse.
Alors nous, on prend régulièrement du fendant.
Oui.
Donc le plus simple pour faire de la fondue.
Qu'on appelle chasse-là chez nous.
Du chasse-là.
C'est ça. Voilà. Absolument. Jennifer et Arnaud Favre, auteurs d'un livre qui s'appelle Haute fondue aux éditions Helvétique, l'art de la fondue en 52 recettes délicieuses. Et ça y est, c'est parti. Vous ne voyagez jamais sans votre arbre à fondue, sans votre caquelon en fonte, sans votre cuillère en bois, sans votre fromage râpé.
Exactement.
Et là, vous la lancez.
Je la lance.
Concrètement, vous la lancez comment? Quels sont les premiers gestes?
Alors les premiers gestes, c'est un geste qu'on a... Automatiquement, on prend une petite gousse d'ail qu'on coupe en deux.
D'accord.
On frotte le caquelon avec la gousse d'ail. Et puis ensuite, on commence à mettre les ingrédients, s'il y a des ingrédients supplémentaires. Maintenant, quand on fait une fondue nature, classique, on met un peu de vin, un peu de fromage. Et petit à petit, on cuit, on fait fondre en fait le fromage. Et puis, le fait de faire régulièrement un peu de vin, un peu de fromage, ça permet de vraiment trouver la bonne onctuosité pour votre fondue.
Là, en l'occurrence, votre base fromagère, c'est ce qu'on pourrait appeler la moitié-moitié?
Tout à fait.
De quoi s'agit-il, Jennifer?
Alors, c'est une moitié gruyère et une moitié Vacherin fribourgeois, justement. C'est en fait celle qu'on trouve le plus en Suisse.
Vous l'aimez, Émeric Gonzalez, la moitié-moitié?
Oui. On l'appelle la fromage suisse pour vraiment définir les deux fromages. Mais c'est une invention un petit peu touriste de dire fondue suisse. On parle toujours en Suisse de fondue moitié-moitié.
Fondue moitié-moitié. Est-ce qu'on vous la réclame? Est-ce que des amateurs dans votre quartier du 8e arrondissement à Paris vous réclament du gruyère et du Vacherin fribourgeois pour faire à 50% des deux fromages, une moitié-moitié?
On nous réclame des bons fromages pour se régaler. Moi, j'oriente par rapport à mes goûts personnels et c'est vrai que la moitié-moitié, c'est vraiment canon. On a du goût, l'intensité, ça plaît beaucoup et on rajoute parfois de l'emmental pour l'aspect filaire.
C'est ça, bah voilà pour faire une savoyarde en fait.
Ouais.
La fondue savoyarde, définition?
Beaufort, comté et emmental.
Beaufort, comté et mental, et là tout d'un coup Arnaud Favre esquisse un sourire
de
dédain. Est-ce que quand on vous dit fondue savoyarde, vous éclatez de rire?
Non, mais disons qu'on n'a pas beaucoup l'habitude. Quand on est en Valais, on mange des fondues avec des fromages de chez nous, donc d'Alpage. Oui, on a peu l'habitude de fondue savoyarde ou autre.
Vous savez, quand j'ai préparé cette émission, j'ai demandé à Jennifer si elle pratiquait la fondue savoyarde. Elle m'a dit la quoi? Et j'ai insisté, fondue savoyarde, et vous m'avez avoué une chose.
Oui, alors c'est vrai, tout le monde se moque, il faut le dire clairement, en Suisse on se moque de la fondue française en disant qu'elle est trop liquide et ceci, cela, et moi je peux pas m'en moquer, je n'ai jamais goûté.
C'est la même chose les Français pour les vins suisses.
Mais probablement.
La meilleure façon de ne pas goûter c'est d'ignorer, c'est absolument ça. La raclette française vous fait aussi.
Oui, forcément. Mais maintenant, on a rencontré des gens hier. On était faire une petite dédicace à la librairie des Alpes à Paris. Et quelqu'un nous a expliqué, nous a donné 2-3 bonnes adresses où aller manger de la fondue à Paris. Alors on s'est dit, il faut qu'on tente le coup.
Oui, bon, écoutez, pourquoi pas.
On reviendra.
Hein. Mais vous êtes bien quand même avec votre fondue, évidemment. Alors fondue savoyarde, on l'a dit, hein, Beaufort, Emmental et Comté. Et la moitié-moitié, gruyère suisse, Vacherin fribourgeois. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre spatule en bois, Jennifer?
Je remue mon fromage.
Oui, mais vous avez mis un ingrédient un peu particulier, car on part dans une direction, on va dire, risquée, osée, audacieuse.
Alors j'ai mis en fait quelques morceaux de gingembre.
Par exemple?
Voilà, j'ai pris de la racine de gingembre que j'ai coupée en petits morceaux. J'ai râpé aussi une petite partie pour qu'elle s'incorpore bien au fromage. Et je vais faire en fait ma fondue avec du gingembre. Et je vais terminer avec une petite note de citron, donc jus de citron.
Est-ce qu'on pourrait penser, Aymeric Gonzalez, notre fromager, qu'en mettant du gingembre avec ses notes, c'était une partie de notre thème de l'émission de la semaine dernière, avec ses notes épicées, poivrées, florales, le citron et son acidité, est-ce qu'on dénature pas un peu les fromages suisses? Vous n'êtes pas tout à fait de cet avis?
C'est un peu inattendu, oui. ce genre d'ingrédients dans ces fromages-là. Après, on s'aperçoit, quand on souhaite travailler les fromages avec les produits de saison, que la proposition des fromages suisses d'octobre à mars nous amène à avoir un choix de fruits un peu léger chez nous. Et du coup, on va probablement se tourner vers les fruits exotiques.
Et vous aimez ces accords-là?
J'adore.
La
fruit de la passion, l'ananas sont des fruits qui se marient parfaitement avec un joli gruyère d'alpage.
Je n'aurais pas pensé. Ouais.
Et l'étiva avec le pitaya ou du ramboutan, c'est fabuleux.
Très bien.
Et moi, j'ai même une petite anecdote, c'est qu'en fait, le citron, si vous cherchez des anciennes recettes de fondue,
oui.
Souvent, on propose un peu de jus de citron, car ça permet de mieux lier le fromage et ça enlève l'acidité du vin selon le vin que vous mettez dedans.
Mais bah écoutez,
ça aide à digérer aussi.
C'est parfait.
Voilà.
Elvira.
Petite question, Jennifer. Vous râpez votre fromage avec une râpe quoi? Gros trou? C'est fin? C'est gros? C'est...
Alors, le fromage à pâte dure, comme le gruyère, une râpe avec gros trous. Et puis le vacherin, par contre, on le coupera plutôt en petits carrés. Ça permettra en fait de laisser que les fromages en fait fondent à la même vitesse.
Très bien. De toute façon, on va vous accompagner tout au long de cette préparation qui prend environ une demi-heure. On garantit à nos auditeurs qu'on va vraiment la goûter. On va tremper du pain légèrement rassis dans cette fameuse fondue suisse gingembre citron. Mais en attendant, on s'intéresse tout simplement au roi des plateaux suisses. Il est né il y a plus de 900 ans. Il est produit par 17 fromageries dans les cantons de Fribourg, de Vaud, de Neuchâtel, du Jura suisse. C'est le roi vraiment des fromages suisses. J'ai nommé le Gruyère. Et je vous propose de plonger avec notre reporter Stéphane Combe dans le chaudron de Laurent Piton. Il fabrique du Gruyère à Gruyère. Gruyère avec un S pour la commune. Ouais. Elle est dans le canton de Fribourg justement. Et on va dans la fromagerie de Grandvillard. De la traite des vaches à la fabrication des meules, il n'y a qu'un pas.
La traite de ce matin, donc c'est du lait qui a été trait entre 5h30 et 7h. Donc les producteurs, ils ont 3 à 5 minutes de transport, mais il est vraiment très directement livré.
Au-dessus de cette cuve, il fait relativement... Enfin, on sent que c'est moite, c'est chaud. Voilà, c'est-à-dire que le lait, là, il est à...
Là, le lait, il est à 32 degrés. Comme il n'est pas refroidi, qu'il est livré direct, instantanément, eh ben, il arrive aux alentours de 32 degrés à la fromagerie. Alors, c'est du lait qui n'est pas traité. C'est vraiment du lait qui provient d'exploitation, de petites exploitations du village. Et puis, c'est tout du lait de montagne. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de prairies naturelles. Et puis c'est la particularité du lait qu'on a dans la filière du Gruyère, c'est tout du lait de non-silage. C'est-à-dire que si vous faites la tournée des fermes autour, vous n'allez pas avoir ces grands tours ou ces grands silos, parce qu'ils ont l'obligation, les producteurs ont l'obligation de sécher le foin. Et puis avec ça, on peut fabriquer. Si on avait des grands silos, tout ça, on ne pourrait pas fabriquer du Gruyère en Suisse. Donc moi, avec la petite pelle maintenant, je suis en train de caresser le dessus de la surface du lait. Et puis on voit que justement maintenant c'est plus du lait, ça commence à se transformer en caillé. Donc ça devient un petit peu
En fait une espèce de yaourt. Hein.
Voilà, c'est du yaourt. Et je retourne comme c'est plus du liquide, ça va vraiment se retourner, c'est comme une petite peau qu'on va découvrir. Et puis c'est vraiment un geste que le fromager fait depuis longtemps. Moi, mon père était déjà fromager. Quand j'étais petit, je le voyais déjà faire ça. Donc c'est vraiment le geste qu'on va détecter ce point où on va commencer à travailler maintenant, à découper le cahier. Comme le lait, c'est un produit vraiment de première, ça nourrit le nouveau-né. Donc on doit le travailler relativement rapidement parce qu'il ne faut pas le laisser se dégrader. Et puis, on va faire les fermentations, on va tout ça préparer. Il va faire sa maturation tout seul dans les caves. Donc nous, on va pouvoir vraiment travailler, influencer notre produit sur ces quelques heures du matin. Et ensuite, une fois qu'il sera fait, qu'il sera pressé, qu'il sera dans les caves, on va faire plus que le surveiller. On ne peut plus tellement l'influencer.
Le Gruyère suisse. On l'a sous les yeux, Aymeric Gonzalez.
On l'a sous les yeux.
Définition d'un Gruyère suisse.
Pas de pressée cuite, au lait cru de vache. On est sur un fromage de garde, sur différents affinages, entre 6, 12, on peut les pousser encore un peu, mais c'est bien aussi quand ça garde un peu d'acidité. C'est rond, c'est franc, c'est noisté, ça va à l'essentiel, c'est hyper gourmand.
Dans le reportage de Stéphane Combe, on entendait le joli mot de morge. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'a pas tellement l'habitude d'employer. C'est vraiment cette solution à base de saumure qui permet de frotter le fromage et c'est la croûte en quelque sorte.
Exactement. Ça permet d'avoir une croûte qui se forme et de garder toute l'intensité de ce fromage à l'intérieur.
On a des problèmes avec les Suisses concernant le terme gruyère, parce que dans l'imaginaire du consommateur français, le gruyère c'est autre chose. Le gruyère c'est un fromage à trous qui est un peu souple. On raconte aux enfants que ce sont d'ailleurs les souris qui ont créé ces trous. Le fromage suisse du même nom, gruyère, a-t-il des trous?
Non. Le gruyère n'a pas de trous. C'est l'emmental qui en a. Ce sont pas les souris qui font les trous dans l'emmental. C'est une fermentation dans des caves à haute température et on a une explosion de gaz.
Donc c'est des bulles d'air.
Exactement.
Et les deux fromages n'ont rien à voir en termes de goût. Emmental et gruyère, c'est vraiment radicalement.
Non, c'est deux propositions complètement différentes.
C'est ça. D'ailleurs, il paraît que les professionnels ne disent pas trous, mais ils disent plutôt des yeux.
Oui, ça arrive. C'est pas quelque chose que j'emploie.
D'accord. Vous dites trous.
J'aime bien les trous parce que ça amuse beaucoup les enfants en boutique. Voilà, c'est le fromage où il y a souris et les trous, ça amuse.
C'est ça. Mais alors là où ça se complique légèrement, c'est qu'il existe bel et bien un gruyère français qui a même une indication géographique protégée, qui lui a bien des trous et qui n'a rien à voir avec le gruyère suisse.
Et qui n'a rien à voir non plus avec l'emmental.
Oui.
On est également sur une pâte pressée, cuite, avec des trous nettement moins imposants.
C'est ça.
On est sur une petite explosion de bulles de gaz. Ça va être entre, si on doit se prononcer, on va être entre un emmental et un comté.
Oui.
C'est quelque chose d'un petit peu plus léger. Voilà.
Et il paraît que la confusion viendrait des années 1890, quand une vague de Suisses allemands émigra en France pour fuir la misère. Certains d'entre eux, des fromagers de métier, avaient dans leur valise le secret de l'Emmentaler, le vrai fromage à trous qu'ils se mirent à fabriquer avec succès dans les Alpes. Et par commodité linguistique, en fait, les Savoyards l'appelèrent entre eux le Gruyère, seul nom de fromage suisse qu'ils connaissaient. Voilà. Donc c'est pour ça que cette confusion, elle date vraiment de là.
Exactement. Et puis en plus, on avait toute au début, c'était vraiment un terme générique. Gruyère était un terme générique pour les fromages un peu grands, gros et à pâte dure. Donc on appelait tous ces fromages-là gruyère.
Et il paraît que certains fromagers n'osent pas encore appeler le gruyère suisse de ce vrai nom et lui trouvent un autre nom de commune suisse. Le Fribourg.
Alors ça a été justement la possibilité, notamment en France, pour les fromagers crémiers détaillants, de proposer ce fromage-là sans faire l'amalgame. Mm-hmm. Donc on parlait de Fribourg et encore aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent du Fribourg au lieu de nous demander du Gruyère.
Ça
nous permet de redéfinir la chose.
On retourne en Suisse. La découpe du cahier, la mise en moule, le marquage, le bain de sel et la mise en cave, ce sont dans les caves que les meules vont se révéler après 5 à 18 mois d'affinage. Petit voyage souterrain avec Laurent Piton.
Donc là, on arrive dans la cave à côté de la cave des frais. Donc là-bas, on avait les tout jeunes pendant une semaine. Ici, on est dans la cave où les fromages ils vont avoir entre une semaine et un mois. Donc c'est là qu'on va voir justement les fromages qui vont prendre leur belle robe.
Là, ils sont orange.
Voilà.
Alors que dans la première cave, alors qu'ils venaient d'être faits, ils étaient blanchâtres.
Voilà, exactement. Donc là, maintenant, on va avoir deux phénomènes qui vont se passer. Le fromage, il va sécher un petit peu en extérieur. Et puis, on a présent dans l'air toutes des bactéries qui vont venir se développer sur la surface du fromage. On appelle ça la morge. Ça va participer au goût du fromage. Durant toute cette période-là, on va les stocker sur ces planches en sapin. C'est de l'épicéa qui permet aussi au fromage de respirer. Je les caresse dessus et ça me permet de sentir. S'il y a des défauts, on sent le grain.
Oui, c'est dessus. Un peu granuleux. Hein,
voilà,
la peau du fromage est granuleuse.
Voilà, exactement. Donc je cherche ce grain et puis j'aime qu'il y ait ça. Je passe, je viens tout faire dans les allées, je fais une surveillance. On va prendre un gruyère, on va le tirer un petit peu dehors de l'étagère. Alors là, on voit la belle couleur de sa croûte. Hein. Ça, c'est un 18 septembre. Entre les mains, j'ai une petite sonde. C'est comme une tige en métal qui va me faire une petite carotte dans le fromage. Donc je vais d'abord taper avec le manche. Le manche, c'est de la corne de vache. Et puis en tapant avec le manche, je vais écouter le son. Et selon le son qu'il fait, ça va m'indiquer si dedans j'ai des défauts ou autrement. Donc avec l'habitude. Donc on a vraiment le bruit caractéristique que l'on cherche.
C'est-à-dire qu'il faut avoir le même son sur toute la surface de la meule.
Voilà, un son régulier, si c'est un son creux, tout ça. On a par exemple une petite fissure. Ensuite, je vais prendre donc ma sonde, je vais faire une petite carotte. On va regarder la flexibilité de la pâte, comment c'est souple.
Vous êtes en train de tordre dans tous les sens.
Voilà, je regarde un petit peu
ce petit bout de fromage.
Voilà, je regarde comment il. Si vous voulez goûter un petit bout. Là, on sent qu'il est jaune. Hein. C'est encore un fromage relativement jaune. On va contrôler la pâte, donc il faut une pâte souple, onctueuse en bouche, d'acide lactique, un petit goût de noisette, assez floral. On est vigilant à la fabrication parce que une fois qu'il est pressé, une fois que le fromage est mis en cave, ben on va juste le frotter, on peut plus tellement influencer. Donc on doit vraiment être très très vigilant sur la qualité première de notre fabrication.
L'affinage du gruyère à gruyère, avec d'ailleurs différentes qualités d'affinage, Aymeric Gonzalez.
Oui, différentes qualités, le classique.
Oui.
4-6 mois, puis le réserve où on arrive à 8 mois, et enfin l'alpage.
L'alpage.
Voilà. Qui dit alpage
10 à 15 mois.
Exactement. Qui dit alpage dit automatiquement été.
C'est ça.
Donc une belle proposition de lait.
Et absolument, une belle proposition de lait. Qu'est-ce que vous répondez aux amateurs qui disent que le gruyère suisse a plus de goût que le comté, son cousin français ?
Je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à la même chose. On a parlé du gruyère, c'est quelque chose de franc, de corsé, de rond, de ouesté. Et personnellement, je pense qu'il faut évoquer de la complexité et une palette un petit peu plus élaborée sur les arômes du comté.
C'est ça, d'accord, très bien. On en est où, Jennifer Favre ?
Ça a bon sentiment.
Préciser pour nos auditeurs que vous êtes debout devant un micro, car vous tenez à faire votre fondu debout. Ah, on sent que ça commence un peu à...
Oui, oui.
La texture devient crémeuse.
Ça commence à fondre, donc le fromage est encore un peu compact, ça ressemble plus à une pâte à gâteau pour le moment parce que c'est encore épais. Mm-hmm. Donc on va attendre un petit peu le temps que ça fonde bien et puis quand ça sera assez onctueux, je vous appellerai.
Vous avez déjà
faut
mis
vraiment
le...
être dessus tout le temps, on ne peut pas s'arrêter de tourner, on est d'accord. Hein.
Non, il faut continuer.
Vous avez déjà mis le vin blanc ?
Oui.
Il faut surtout tourner en 4.
Arnaud.
C'est très intéressant de tourner en 4.
Ça veut dire quoi ?
Ou en 7.
Tourner en 4, on sait. Moi, je connaissais tourner en 8, mais.
Voilà, justement, c'est parce qu'on dit toujours qu'il faut tourner en 8. C'est une espèce de vieille tradition, en fait.
Donc, on fait un 8 avec la cuillère.
Exact. Hein. Mais en fait, c'est une astuce qui se retrouve encore une fois dans les vieux livres parce que c'est pour bien que les gens prennent la fondue des bords jusqu'au centre.
Très bien.
Donc, vous pouvez la tourner comme vous voulez, Arnaud, plaisante en disant en 4, mais vous pouvez faire l'alphabet aussi.
Tout sauf 0, quoi.
Arnaud
est très à cheval sur des principes. Juste avant de s'intéresser à ce qu'il y a dans nos verres, Elvira, des questions de pas mal d'auditeurs qui se posent des questions très pratiques sur la fondue à la maison.
Qui se posent la question notamment de savoir la quantité de fromage par personne et la quantité de liquide pour le fromage.
Alors, pour le fromage, il faut compter 200 grammes de fromage par personne. La quantité de vin est indécis de vin par personne si vous faites une fondue tout à fait classique. Après, si vous rajoutez des ingrédients, il faudra réajuster.
Antoine y fait un temps pourtant.
Oui, exactement. Oui. Moitié vin, moitié fromage, c'est ça. D'autres questions ?
C'est plutôt un commentaire de différents auditeurs qui nous disent que depuis quelques années, ils remplacent le vin par du champagne ou de la bière.
Oh, les snobs.
Oui, tout à fait. Le champagne, la bière, je pense que c'est les petites bulles. Ça rend en fait la fondue beaucoup plus digeste, hein, beaucoup plus léger pour digérer le soir surtout.
Très intéressant. Et pour accompagner cette fondue moitié-moitié, gingembre, citron, qu'est-ce qui se passe dans nos verres ?
On va déguster sur France Inter.
Ce qu'il se passe dans nos verres, la réponse avec Antoine Gerbel. Nos verres sont pleins, c'est une bonne nouvelle.
Oui.
Et pourtant, nos amis suisses ont l'air d'apprécier.
Tout à fait, pourtant il y a eu un peu de casse, c'est les aléas du direct.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben voilà, Elvira évoque le pétillant pour mettre dans la fondue, mais le pétillant effectivement, soit un champagne, mais en Savoie, il y a l'aïs, par exemple, les Savoyards mettent l'aïs dans la... Pourquoi c'est des vins aussi qui ont beaucoup plus d'acidité, une fois que vous réduisez en cuisson, c'est important de mettre un vin très acide. Hein. Je pense que c'est la base aussi, il faut quand même aller chercher quelque chose de piquant.
Pour la fraîcheur.
Alors,
mais il s'est passé quoi ? Vous avez cassé votre bouteille ?
J'ai cassé ma bouteille.
Ah oui, arrivé en mille morceaux.
En mille morceaux.
On peut
voilà.
En témoigner.
J'en parlerai seulement avec beaucoup d'émotion, c'était magnifique. Mais je ne vous ferai pas goûter.
Ça, c'est sûr.
Alors, on aurait pu effectivement, bien évidemment, parler des vins suisses et qui sont remarquables. Je connais surtout le Valais, les vins du canton de Vaud, qui sont en ce moment à peu près comme les vins savoyards que je vais évoquer. Le niveau en train de monter. La mauvaise image qu'on a des blancs suisses, petits blancs un peu acides, plein de côtés perlants, comme pour ma ce qui est un peu le manque de goût, disons-le, ça est complètement en train de changer. D'une part parce que c'est une viticulture de montagne, une viticulture d'alpiniste qui travaille des coteaux incroyables. Vous n'avez qu'à prendre cette belle route qu'on appelle la route des vins quand on quitte Genève, là, pour se rendre compte de cette magnifique terroir.
Donc, il y a même des crémaillères pour faire les vendanges dans certains...
Bien évidemment, on travaille pied par pied, vraiment comme on escalade la montagne. Donc ça donne des grands vins. Mais les vins suisses, malheureusement, vous n'avez pas encore l'euro, donc on les paye en francs suisses, on les paye un peu cher. C'est pour ça j'ai allez chercher quand même des vins de qualité, mais ils sont tous quand même relativement chers. Ils sont faits pour vos marchés principalement et un peu pour l'Allemagne. Donc, j'avais aussi quelque chose à j'avais une revanche à prendre par rapport au vin de Savoie. J'ai fait une chronique l'an dernier qui s'appelle Roussanne, la bimbo des montagnes.
Qui a fait un peu de bruit dans le Landerneau savoyard, faut bien l'avouer.
Et je parlais de ce cépage qu'on retrouve surtout sur la commune de Chignin-Bergeron. Et j'avais un peu taclé sévèrement la Jacquère. La Jacquère, c'est
On a plus d'auditeurs en Savoie à cause de vous.
À cause de ça. Donc voilà, je réhabilite un peu la Jacquère, mais je continue à être un peu sévère. Comme les vignerons d'ailleurs. Parce que je vais vous amener deux vins de deux vignerons qui ont été très durs avec ce cépage. Et en même temps, ils font aujourd'hui des vins remarquables avec. Alors très dur, pourquoi? La Jacquère, c'est 50% des vignes plantées en Savoie. La Savoie, c'est un petit vignoble. C'est 2000 et quelques hectares. Je vous rappelle que rien que Sancerre, c'est 3000. Vous voyez, donc c'est tout petit. C'est plein de petites appellations qui portent le nom de chaque clocher. Bien évidemment, on est en France et on est en plus dans des vallées savoyardes. Donc faut surtout pas se mélanger. Mais il y a quand même une grande appellation qui s'appelle vin de Savoie où on mélange surtout beaucoup de Jacquère pour faire ces petits vins qu'on trouve pas très chers en grande surface ou au pied des pistes. Et puis on fait aussi des bulles, justement ces fameuses bulles pas très grande qualité. Ces Jacquères sont destinés à plutôt à ces produits-là. Ça produit beaucoup, ça produit des petits degrés. Donc qu'est-ce qu'on fait souvent ? On chaptalise, on rajoute du sucre pour être un peu plus riche. Donc ça, c'est les Jacquères dont on ne veut plus entendre parler. Et quand on va en Savoie aujourd'hui, on rencontre des vignerons qui sont qui ont à peu près le même sentiment. Et ils disent, mais ça suffit, on peut faire quelque chose de mieux. Alors le mieux, c'est simplement surtout des vignerons qui sont en bio, en biodynamique, qui ont des rendements beaucoup plus bas. Donc du coup, la Jacquère, elle se calme, elle se concentre, et elle va chercher cette minéralité que vous avez à avoir dans vos verres, ce côté citronné qui va très bien avec les fromages et la fondue. Cette Jacquère, elle prend vraiment une nouvelle dimension aujourd'hui et elle a aussi un avantage, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de degrés. En ce moment, on a un gros problème avec tous ces degrés qui montent dans tous nos vins, qui font 13, 14, 15 degrés. Vous allez voir les 2018 qui arrivent bientôt sur le marché, c'est des monstres, des petits monstres pleins d'alcool. Ben, la Jacquère ne fait pas d'alcool, ça fait 11, 11,5 maximum, même en 2018. Et ça, c'est super agréable. C'est pour ça qu'on peut le prendre à l'apéro, c'est un vin de Savoie qu'on peut prendre à l'apéro, puis après, on enchaîner sur les poissons de rivière, les petits poissons papillotes, les fritures. Enfin voilà. Voilà, je pense que j'ai assez. Ouais. J'ai fait du bien à la Jacquère. Elle en a besoin. Alors, vous avez deux vins dans vos verres.
Donc, deux verres par personne. Juste un.
Pas tous. Dans le petit verre, vous avez le vin de Domaine Jacquinot et dans le grand verre, vous avez le vin d'Antoine Petit-Treize. Alors, Jacquinot, c'est en ce moment pour moi un domaine remarquable parce que tout est bon. C'est rare d'aller dans un vignoble et il a une dizaine d'hectares et toutes les cuvées, et il y en a beaucoup, tout est bon. La bulle donc que j'ai cassée, qui s'appelle Jack Bulle, c'est de la Jacquère. Elle est un peu rosée. C'était de la Jacquère, un peu rosée parce qu'il y a un tout petit peu de mondeuse dans le pressurage et c'est une bulle délicate. C'est délicieux, je suis désolé. Elle est dans les goûts. Après, vous avez sa Jacquère classique, ça s'appelle l'Apremont. Donc ça, vous connaissez l'appellation Apremont. C'est sa Jacquère classique, c'est très fin. Alors, c'est des levures naturelles, indigènes, bien évidemment. C'est des pressurages très doux, c'est très mûr. Donc, on a à la fois une certaine générosité, mais on garde aussi une très belle acidité. Jacquinot, ils sont installés à Chaparayan. Donc, on est à la frontière de l'Isère et de la Savoie. On n'est pas loin du Bugey. Parce que cette Jacquère, elle se promène aussi un petit peu dans le Bugey.
Mais il y a une belle richesse aromatique, hein.
C'est ça.
Et en même temps, c'est salivant.
C'est un peu poire, c'est un peu citron, et c'est salivant exactement. C'est ce côté salin qui reste vraiment très très marqué en fin de bouche. La famille Jacquinot, elle est extraordinaire. Je vous conseille tous ces vins. Et j'ai trouvé ça chez, il n'y a pas beaucoup de cavistes, mais il y a un caviste qui s'appelle le 22. Il est à Montreuil. Donc, sortez un petit peu, les Parisiens, sortez un petit peu. Il y a des bons cavistes dans la banlieue. Ça s'appelle le 22. Ils ont toute la gamme Jacquinot. C'est, je crois, le plus gros distributeur en France. Le deuxième vin, je l'ai trouvé adorable aussi. C'est Antoine Petit-Preize. Alors, Antoine Petit-Preize, c'est un bourguignon. C'est à la Pommard. Mais il va faire de la montagne souvent. Il est avec sa compagne de Chambéry. Donc, il tombe amoureux de la Savoie. Il trouve une petite vigne. Il fait généralement du pinot, du Chardonnay en Bourgogne, ils trouvent une petite vigne et ils appellent ça petite vigne de Jacquère qui travaille tout seul, c'est Brise-Pente. Alors Pente, ça vous indique tout de suite l'état du vignoble. Et Brise-Pente, si vous êtes de la montagne, vous savez que c'est ce vent qui se lève avec le premier soleil. Donc je trouve ce vin, alors il est un petit peu plus brouillon, un peu plus trouble, parce que lui, il a vraiment pas filtré du tout, très peu de soufre, mais on garde exactement cette même énergie. Et le Brise-Pente, moi, pour moi, c'est la nuit d'été. C'est cette petite fraîcheur qui vous tombe un peu sur les épaules, mais vous savez que la journée était chaude et que demain, elle sera encore chaude. Et c'est exactement cette sensation qu'on a avec cette
cépage. Pour filer la métaphore, la métaphore montagnarde, on a vraiment le sentiment de déguster à la verticale. Hein. C'est droit, c'est vibrant, c'est acide.
C'est l'esprit du cépage qui est préservé parce que tous ces vignerons, bien évidemment, n'ont pas envie de mettre leur ego trop en avant dans les vins, mais d'abord donner l'expression terroir. Je rappelle que la Savoie, c'est des combes très jeunes. Hein, c'est notre vignoble au niveau du terroir le plus jeune, c'est les Alpes. Hein. Donc, c'est pas la Bourgogne, ce sont pas ces terres anciennes, mais c'est aussi ce qui donne cette énergie incroyable à ces vins.
Vous aimez ou pas, Arnaud Favre?
Clairement, c'est une très belle découverte. Et l'écouter avec passion, c'est magnifique.
Bon bah voilà, on a déjà participé à la réconciliation franco-suisse. Henrique Gonzalez, je sais que vous aimez beaucoup les vins, et vous en vendez quelques-uns d'ailleurs, des plutôt naturels.
Exactement, oui, c'est fabuleux, c'est très bon. On a la sensation d'avoir encore ce petit côté grappe pressée.
Oui, exactement, à la sortie du pressoir, exactement, pressurage direct. Je tiens à dire que il y a 13 € pour l'Apremont de chez Jacquinot.
D'accord.
Donc, prix caviste, hein, donc voilà. Et le Brise-Pente d'Antoine Petit-13, on est un peu plus cher, on est autour de 20 €, mais à Paris, donc je pense qu'on doit trouver un petit peu moins cher, toujours ça en direct. C'est des petites productions, je vous le rappelle.
Oh, ça commence à filer, Jennifer.
2-3 minutes.
Eh bien écoutez, c'est juste le temps de passer un disque, ça tombe très bien. Dans un instant, on va déguster votre fondu. On a vraiment hâte, citron, gingembre. On va parler également de ce qu'on pourrait appeler la Romane Conti des fromages suisses. On va en parler avec notre fromager parisien, Aymeric Gonzalez. Polyblues, oui, c'est une folk aérienne et ensoleillée de la californienne Jessica Pratt. Et c'est très beau.
Like this before, illusions that they try to understand the questions that the man I'd hope could find. What is this answer?
Les fromages suisses sont à l'honneur dans le studio 521 de la Maison de la Radio. Nous sommes en direct. Les températures à l'extérieur sont plutôt printanières, mais on a quand même envie d'une bonne fondue. Et suisse de préférence avec nos amis venus du Valais, Jennifer et Arnaud Favre. Vous êtes déplacés avec un caquelon en fonte qui pèse lourd, avec un arbre à fondue.
Tout à fait.
Incroyable. Arnaud Favre, parlez-nous de votre aventure. La fondue, c'est vraiment devenu votre vie. Vous êtes tombé dans le caquelon il y a quelques années. Et depuis, ce sont un livre livre, on en a parlé évidemment, Haute Fondue aux éditions Helvétiques, mais également beaucoup d'événements, car ce n'est pas un cliché de dire que les Suisses sont vraiment amoureux de la fondue, et ce, à toute saison.
Mais tout à fait, on a créé donc l'association qui s'appelle les Compagnons du Caclon en 2012, et on est une douzaine de joyeux lurons. Et on organise des événements comme des jeux de piste autour de la fondue ou des festivals de fondue. Et on remarque que bah, c'est convivial, c'est fédérant, il y a tout le monde qui vient, qui s'amuse bien. Et c'est un peu ça notre but.
C'est ça.
C'est de faire sourire les gens et de créer la bonne humeur.
Des Français s'infiltrent un peu dans vos manifestations ou pas?
Mais oui, on a eu quelques Français.
Car ouais. vous organisez ces événements plutôt de quel côté? Dans le canton, du Valais?
Alors plutôt en Valais, oui. On n'est pas encore trop sorti pour l'instant.
C'est ça.
Mais on ne sait pas.
Émeric Gonzalez, vous n'avez jamais été invité à un événement fondu en Suisse?
Non, mais j'attends l'invitation, vraiment.
Vous préférez le fromage cru? Enfin cru, quand je dis au lait cru évidemment, bien sûr. Mais le fromage nature sur un plateau? Non là, une bonne fondue?
Non, tout. De toute façon, il n'y a qu'avec des bons produits qu'on fait des bons plats.
C'est cela.
Et là, entre les arômes de la fondue qui arrivent, le vin naturel et le plateau de fromage, j'ai l'impression d'être entré dans une petite brocante pleine de pépites.
Oui, c'est ça. Excellent. Alors justement, les pâtes suisses, on va en parler dans un instant, car il n'y a pas que le gruyère suisse et le vacherin fribourgeois qui sont pour moitié-moitié à l'origine de cette fameuse fondue, qui d'ailleurs est prête. C'est une bonne nouvelle, Jennifer Favre. D'ailleurs, vous êtes debout, elle est prête. Levez un peu la spatule pour voir de quelle manière elle se comporte. Ah, elle file, attendez.
Elle filoche.
Elle filoche.
Elle est plus crémeuse que fileuse. Hein.
Alors, vous êtes tout autour du caclon.
Ah, moi, je me suis évidemment
approchée. Eh bien.
D'abord, la texture est géniale. Effectivement, cette texture plus crémeuse que fileuse est vraiment hyper agréable. Et surtout, moi, c'est une énorme découverte. Le gingembre et le citron, sincèrement, j'étais un tout petit peu dubitative.
Attendez, vous piquiez carrément du nez sur le générique. Vous m'avez même dit à l'oreille, ils ne vont quand même pas nous gâcher. Ils ne vont pas nous gâcher cette fondue avec du gingembre et du citron. Quelle mauvaise idée.
J'ai fait un début d'insurrection, mais je dois avouer que je suis ralliée à la cause du gingembre et du citron parce qu'il est très savamment dosé. C'est assez discret. C'est une note comme ça qui vient casser un peu le côté gras, le côté peut-être. Ça vient apporter une complexité à ce côté lactique. C'est-à-dire que ça vient rafraîchir, tout simplement.
Jennifer, comment ils interviennent? Le gingembre, on parle de gingembre frais. C'est donc le rhizome que l'on a préalablement épluché. Et le citron, à quel moment de la préparation interviennent ces deux ingrédients?
Alors, le gingembre, je le coupe en petits carrés, voire même je le râpe pour qu'il s'incorpore bien au fromage et je le mets en début de cuisson.
Oui.
Je fais cuire, fondre mon fromage en même temps que le gingembre. Et le citron, par contre, je le mets pas à la fin, peut-être un petit peu avant, pour vraiment que ça prenne aussi un peu le goût.
Citron, jus?
Jus, citron. Tout simplement du
pas
jus
d'est.
De citron. Non, du jus de citron.
Très bien, du citron de Suisse, hein, bien sûr.
Mais évidemment.
Citron méditerranéen.
C'est le côté cédra, je trouve. C'est qui ressort. C'est pas un côté citronné comme.
Enfin, tout à fait.
Le goût, c'est vraiment la cédra.
C'est très subtil.
La famille des cédras, vraiment, c'est magnifique. L'écorce.
Et il faut le doser comme vous voulez. Dans le livre que nous avons écrit, on donne des doses de référence. Maintenant, c'est à vous de rajouter si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de goût, ou bien d'enlever si vous trouvez, enfin, de pas en mettre autant.
Et ça dénature pas le goût du fromage.
Et ça, c'est très important. Parce que les gens, les puristes, en tout cas en Suisse, il y a beaucoup de puristes de la fondue traditionnelle.
Non.
Dès qu'on leur dit qu'on rajoute des ingrédients, ils
se crispent un peu.
Ah oui, complètement. Et quand ils voient qu'on dose savamment, eh ben ça va tip-top.
Vous dosez tellement savamment, en fait, que le gingembre, il apporte une petite trame florale. Le citron, évidemment, une jolie note parfumée, fruitée, acide. Mais à peine décelable comme ça... Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, le fromage reste dominant, mais quelle fabuleuse idée.
Ah ouais.
C'est génial.
Non, franchement.
C'est génial. Et du coup, on est moins dans dans la fondue qui colle à l'estomac, quoi.
C'est ça. La recette.
Ça donne envie d'aller très très loin avec les agrumes et autres fruits un peu acidulés.
La recette est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il y a d'autres déclinaisons possibles, comme celle par exemple de mettre de la moutarde à la place du gingembre et du citron.
Tout à fait.
La moutarde à l'ancienne.
Moutarde à l'ancienne. On a fait justement hier une dégustation dans Paris dans une autre librairie Barouani. Et là, on a fait goûter à des Parisiens et ils ont adoré la moutarde à l'ancienne. Ils ont vraiment trouvé que c'était très bon, que ça rapporte une petite touche aussi assez sympa.
On dit Étiva ou Étivaz?
Étiva.
Hein? comme à Voria.
Tout
c'est
à
la
fait.
Même chose. Donc on ne prononce pas le Z final. Ce nom désigne un fromage exceptionnel que l'on découvre avec notre reporter Stéphane Combe. Il est allé à la rencontre d'Olivier Yersin, qui est producteur de lait et de fromage et président de l'interprofession de l'Étiva.
L'Étiva, c'est le cousin du gruyère. Mais le gruyère, il se fabrique. Il peut se fabriquer toute l'année. Nous, c'est un fromage qui est fait à l'alporge sur le feu de bois.
Il donne un fumet plus ou moins fort du chalet. Le goût de la fumée du chalet.
Le fromage qui a été fait à l'alporge, il est jaunâtre, il a une certaine couleur. Et puis, il y a quand même ce goût de la flore, de l'herbage. Tandis qu'un fromage de... Un gruyère qui a été fait pendant l'hiver avec des vaches à fourrager avec du foin, il sera beaucoup plus plein. Il n'aura pas la même texture. Il n'aura pas ce goût aromatique comme des vaches qui ont été pâturées. Alors là, on arrive dans la cave du pré-affinage de l'Étiva. 18 700 pièces. Ça, c'est toutes des mules de 27-28 kilos, celui-là. Chaque producteur a sa place. Hein. On prend les commercialisés au bout de 135 jours. Le minimum. Mais elles peuvent rester jusqu'à 2 ans. Ça, c'est les miens, ça. J'ai un alporge du côté du col de Chaude, au pied des rochers de Neille, là, en dessous de Montreux. J'ai 60 vaches laitières. On les pâture un petit peu dans nos surfaces de plaine, et puis après, on montre à l'alporge, et puis là, on fabriquera notre fromage Étiva. Du 20 mai jusqu'au 20 septembre. Moi, depuis l'âge de 8 ans, j'ai tout tenté à l'alporge. J'ai 50 ans d'alporge, moi. C'est ma 36e année que je fabrique. Nous, c'est tout au feu de bois, c'est vétus, nos chalets d'alporge. On mange tous les jours du fromage, en famille.
Si vous allez dans les alpages des...
C'est presque notre plat principal.
Si vous allez dans les alpages des Alpes vaudoises, vous aurez des chances de croiser Olivier Yersin et les producteurs d'Étiva. Fromage assez exceptionnel. On dit souvent, pour utiliser une comparaison bachique, que l'Étiva serait un peu la Romanée Conti des fromages suisses, Aymeric Gonzalez.
Clairement. Il y a, de par sa façon d'être fabriqué, il y a un savoir-faire ancestral, traditionnel, qui est maintenu. C'est une petite production. Contrairement aux gruyères. Et puis il y a cette cuisson au feu de bois, couvercle ouvert, qui apporte une note boisée, légèrement fumée. On arrive à justement avoir une vraie complexité dans ces arômes encore nouveautés, c'est fabuleux.
Et le terroir d'Étiva, ces fameux alpages dont je parlais, un peu comme en Bourgogne, assez... Ces climats, ces cuvées, il y a des endroits tout à fait différents et qui changent véritablement le profil organoleptique, aromatique de ces meules d'Étiva.
Exactement, on se retrouve dans une situation géographique, climatique, qui fait qu'on obtient une alimentation pour les vaches assez exceptionnelle.
Vous en vendez de l'Étiva, Aymeric Gonzalez?
Oui, si je dois l'avouer, c'est un de mes fromages préférés.
Et arrivons à la question qui fâche, car on évoquait avec Antoine Gerbel il y a quelques instants le prix des vins suisses. On a un peu le même problème avec les fromages suisses, même s'ils ont énormément de succès auprès des gourmets français. Il est vrai qu'en moyenne, ils coûtent plus cher que la moyenne des autres AOP fromagères françaises que vous vendez.
C'est ça, c'est le petit côté suisse, hein, des fromages. Alors pour des fromages de garde, c'est évident qu'on peut les mettre en avant, on peut faire valoir un vrai savoir-faire. En revanche, c'est vrai que quand on fait un petit tour, quand on va parler des Mantaleurs, quand on va parler de Sprints, quand on va parler de raclette, on arrive à des prix qui sont un petit peu élevés que, en tout cas, les clients français ont du mal à intégrer.
C'est ça.
Voilà.
Et là-dedans, l'Étiva est encore plus cher.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire qu'il peut dépasser, disons-le...
40 euros. Il peut dépasser oui, 40 euros.
Donc l'Étiva est véritablement un fromage de luxe, mais qui est absolument exceptionnel. Chaque producteur transformant en fait le lait de son propre troupeau avec des règles extrêmement strictes dans le cahier des charges et cette cuisson que vous évoquez au feu de bois, dans les chalets d'alpage, qui d'ailleurs apporte ces notes boisées et fumées hein, à la pâte dure.
C'est ça. Il y a une vraie authenticité et une signature incomparable.
On va parler d'autres fromages suisses, mais je vous propose de faire avec Elvira Masson une pause patate.
On va déguster. Sur France Inter.
Je me suis
C'était
laissé dire,
joliment Elvira, dit, pause patate.
Que vous avez vécu, Talaïdi, dans vos jeunes années, en
C'est
Suisse.
Pas faux. J'ai grandi en Suisse, de pratiquement ma naissance à mes 6 ans.
Vous couriez dans les alpages pieds nus?
Je courais dans les alpages pieds nus avec mes maîtresses et ma petite robe en me goinfrant de fondue et de pommes de terre.
Remarquez, avec vos cheveux blancs, vous êtes assez crédible. Hein,
oui, je suis un peu couleur locale. Ouais.
C'est ça.
Ah, ouais. Est-ce qu'on peut dire que la pomme de terre, comme le fromage, était la cuisine helvétique, ce que Guillaume Tell est à son roman national?
Oula, pas mal.
Ça commence fort.
Beaucoup d'informations en une phrase.
Beaucoup d'infos, oui. Je rappelle que Guillaume Tell est ce personnage qui a dû tirer à l'arbalète dans une pomme sur la tête de son fils. Je pense que si la pomme de terre avait existé à l'époque de Guillaume Tell, c'eût été une pomme de terre à la place de la pomme.
Absolument.
La pomme de terre est l'ingrédient principal, voire le seul, parfois, qui entre dans la composition des Rösti. Rösti, donc cette recette.
Ah, oui, non, mais parce que Rösti, déjà, ça s'écrit. C'est...
R au tréma, donc R-E-S-T-I, ch'ti.
La prononciation est bonne ou pas?
Rösti.
Rösti.
C'est ça?
Genau.
Donc tout le monde est d'accord ou presque, cette galette de pommes de terre râpée, croustillante dehors, moelleuse dedans, est le ou l'un des deux plats nationaux suisses avec la fondue. Pas de consensus, en revanche, sur l'origine de la recette, ni ses règles, qui varient en fonction des régions, des cantons.
Donc, garde-clocher.
Garde-clocher. D'ailleurs, la dissension est telle que l'on parle ou que l'on parlait de barrière du Rösti ou de Röstigraben, pour souligner les différences culturelles entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.
Non, vous plaisantez?
Non, c'est vrai.
Ah, le Röstigraben, c'est-à-dire que tout se cristallise autour du Rösti.
Le Röstigraben, c'est très connu chez nous.
C'est un vrai enjeu géopolitique entre les deux Suisses. On trouvera à loisir du lard fumé ou non, de l'oignon, du fromage, gruyère, Appenzeller, de la crème, du cumin ou uniquement des pommes de terre. Dans la version Rösti mit Apfel, on mélange même pommes de terre et pommes fruits. Peut-être encore une fois un hommage à Guillaume Tell, j'en sais rien. Ensuite, il y a les partisans de la pomme de terre crue contre les adeptes de la pomme de terre cuite, les tenants du beurre contre les militants du Saint-Doux. Les pommes de terre doivent être pré-cuites, disent certains, en effet. Certains ne jurent que par les pommes de terre qui tiennent à la cuisson, à grillade de préférence. D'autres militent pour une pomme de terre farineuse de type Binch. L'origine des Rösti remonterait au 19e siècle. Il serait parti de Zurich, donc de Suisse alémanique, pour conquérir ensuite l'ensemble du territoire, jusqu'à la Suisse romande via Berne. N'en déplaise à Jennifer et à Arnaud, qui ne sont pas du tout des fans de Rösti. Ils sont quand même un petit peu présents
chez
vous.
Attendez, qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous n'aimez pas le
Rösti? C'est la Suisse alémanique, donc on n'aime pas.
C'est les autres.
C'est ça. Ah, c'est, on déclenche des conflits géopolitiques avec une simple chronique sur le Rösti.
C'est juste qu'on a moins l'habitude, c'est tout. C'est pas trop notre plat national en Romandie. On a moins l'habitude du Rösti.
Et qu'est-ce qu'on va faire des Rösti qu'Elvira a préparé avec amour?
On va la regarder, on va les
manger avec amour.
Ah, quand même, maintenant,
on va les tremper dans la fondue.
Je suis là.
On va les tremper dans la fondue.
Bonne idée.
C'est pour ça que je les ai apportés. Je me dis qu'on n'aurait plus de pain au bout d'un moment. Rapidement, les Rösti qui étaient servis le matin ont supplanté les soupes et les bouillies qui étaient traditionnellement servis au petit déjeuner. Je les ai même, moi, préparés tôt ce matin. J'ai essayé avec des pommes de terre crues. Ça a été un peu un fiasco, je dois vous dire. J'ai pas réussi à retourner la galette. Ça se retourne à mi-cuisson comme une crêpe. Évidemment, la partie qui avait bien commencé à croustiller s'est mise à attacher au fond de la poêle. J'avais peut-être pas mis assez de matière grasse. Donc, j'ai recommencé.
Oui.
Ça, c'est la version que j'ai commencé il y a quelques jours. J'ai fait cuire les pommes de terre, comme je l'ai pas mal lu. Je les ai réservées pendant une journée. Et j'ai râpé, à la râpe à gros trous, les pommes de terre pelées, froides. Et là, ça a fonctionné. Il existe même en Suisse des râpes à Rösti. On trouve dans le commerce des râpes qui ne sont destinées qu'au râpage des Rösti. Ça ne sert à rien d'autre. C'est un outil évidemment essentiel. Donc, pour faire ce petit Rösti individuel ou pour deux, en fonction de votre...
C'est
un petit diamètre. J'ai utilisé 4 pommes de terre à grillade, un petit oignon. Alors ça, c'est pas très orthodoxe non plus. Hein, on peut. Une cuillère à soupe de gruyère râpée, un morceau de lard fumé détaillé en petits morceaux, beaucoup d'huile, du sel et du poivre. J'ai fait cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient encore un peu al dente, jusqu'à ce que la pointe d'un couteau puisse encore être piquée dedans.
Oh, c'est bon.
J'ai râpé, j'ai émincé le lard, j'ai fait rissoler l'oignon et le lard. J'ai mis les pommes de terre dans la petite poêle anti-adhésive, j'ai cuit 7 minutes, j'ai retourné à mi-cuisson 7 minutes. J'ai mis un peu de persil aussi, ce qui n'a rien à faire là, mais bon, passons.
Même froide, elle est délicieuse.
Oui, voilà, c'est supposé. C'était évidemment chaud en partant de la maison, et c'était croustillant à l'extérieur. Là, évidemment, ça a un peu ramolli.
De loin, ça ressemble à une tortilla suisse.
Oui, ça ressemble un peu à une tortilla, c'est ça.
En gousse, on a tout le fumé, surtout, qui ressort.
Ah oui, du lard.
C'est pas mal, ouais.
Il y a un œuf ou pas? J'ai pas suivi.
Il n'y a pas d'œuf, non.
D'accord.
Oignon, gruyère, pommes de terre, sel, poivre.
Mais pour colmater, amalgamer, c'est un peu l'amidon de la pomme de terre.
Et le fromage qui fait un peu le rôle de ciment. Et là, c'est amalgamé parce que la pomme de terre est cuite au départ. Quand elle est crue, il faut bien la rincer quand même. Vous parlez de tortilla, Antoine. Effectivement, la râpée de pommes de terre, on la trouve un peu partout dans le monde, notamment en France. Dans le Morvan, on fait des râpées de pommes de terre. En Ardèche, on pratique la crique. En Alsace, la touch. Et bien sûr, aux États-Unis, le hash brown n'est ni plus ni moins qu'un Rösti américain.
Vous avez pas oublié la Suède?
Si, mais j'ai pas osé.
Allez-y.
En Suède, on fait quelque chose qui s'appelle le ragmunk, qui est un truc vraiment génial et c'est vraiment meilleur que tout ça.
Et vous, François Régis, le gratin dauphinois, non?
Oui.
Non, mais c'est pas râpé.
Oui, c'est pas tout à fait râpé. Et Eva Masson pratique le
ragmunk, oui, elle m'en faisait enfant. Mais c'est un peu différent. C'est une crêpe avec farine, lait, œufs, qui entoure justement cette râpée de pommes de terre. Donc on est plus dans une crêpe à la pomme de terre râpée. Mais c'est vraiment génial. Je ferai ça la prochaine fois.
Évidemment, Eva, votre maman suédoise, qui pratique superbement le répertoire suédois. Merci beaucoup pour cette petite pause patatophile. Vous pratiquez le Rösti ou pas, Émeric Gonzalez, à la maison, non?
Non, mais on va s'y mettre.
On va s'y mettre.
Oui,
on se laisse tenter. Hein.
Fromage suisse, on dit souvent en Suisse qu'ils sont très à table, car on a évoqué effectivement l'Étiva, le Gruyère suisse, le Vacherin fribourgeois, mais il y a également un autre fromage que vous appréciez particulièrement, c'est la Appenzeller. Dites-nous un mot de ce fromage.
Ah, la Appenzeller, c'est un fromage qui est probablement le plus descriptif de ces arômes suisses, d'une part parce que c'est un fromage qui n'a pas d'AOP.
Oui.
C'est un fromage qui se suffit à lui-même dans la production.
Qui est presque une marque en fait.
C'est exactement ça. Du coup, alors évidemment, on en retrouve
mais
un peu.
Mais ça n'enlève rien à sa qualité.
Du tout. C'est un fromage qui est fabriqué avec du lait thermisé, 5% de lait cru également. Une belle rondeur, il y a une texture qui est très très fondante, très grassouillette.
C'est ça.
Et ça, ça fait du bien à la noisette.
Pâte un peu souple, et la Appenzeller nous vient des rives du lac de Constance, même dans les pentes aussi de l'Alpstein. Et c'est un fromage qui est fait à base de lait de vache brune. Les races laitières, on communique pas trop en Suisse sur les races laitières, comme si l'identité d'un fromage ne reposait pas sur ses identités bovines.
Alors dans les alpages, on identifie trois races. L'Abondance,
oui.
La Tarine et la Montbéliarde.
C'est
ce sont
ça.
Les trois vaches laitières de ce terroir-là. Après, on a, chez les Suisses, beaucoup de Primostein, qui sont... c'est un peu la vache un peu compète, qui permet d'avoir une bonne rentabilité de lait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que techniquement, il n'y a pas d'effet de race
c'est ça.
Dans la typicité d'un fromage, et que c'est le savoir-faire humain et le principe de fabrication et l'alimentation qui vont faire la différence.
C'était le mot de la fin sur les fromages suisses. Je rappelle le titre de votre livre, Jennifer et Arnaud Favre, Haute fondue, l'art de la fondue en 52 recettes avec les photos de Dorian Rollin. Aymeric Gonzalez, merci beaucoup. On peut vous retrouver, vous,
merci
et
beaucoup.
Vos bonnes pâtes suisses à la crèmerie de la cour. Vous nous en rappelez l'adresse?
8 rue Corvetto.
C'est
Paris
ça.
8e.
La semaine prochaine, France Inter débarque à Saint-Étienne et On va déguster fait partie du voyage. On vous donne rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission vendredi prochain, le 22 février à 10h45, au Hall Mazra. Voilà, on vous attend nombreux à dimanche prochain. Si vous avez encore faim,